VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. Nous sommes lundi 2 avril 2018. Au sommaire, Winnie Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, est décédée à l'âge de 81 ans.
Elle a subi des pressions, des traumatismes, des dépressions et de l'oppression et tout ça. Donc c'est un symbole vraiment très important pour pas seulement l'ANC, mais la libération de l'Afrique du Sud.
Le groupe Boko Haram a multiplié les attaques dans le nord-est du Nigeria ce week-end, attaquant un camp militaire à Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Le nouveau premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi. Il a prononcé un discours conciliant envers l'opposition et l'Érythrée. Israël annule son projet d'expulsion de migrants africains, mais l'Italie nie être impliquée dans l'accord entre Tel Aviv et les Nations Unies. Et puis la Chine annonce des mesures de rétorsion contre les États-Unis en imposant de nouvelles taxes sur une centaine de produits américains. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Une des figures historiques de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud est décédée ce matin. Winnie Mandela, ex-épouse du premier président noir du pays, Nelson Mandela, était internée dans un hôpital de Johannesburg. Elle avait 81 ans. Morgan Grieck.
Le parcours de Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela, surnommée Winnie, est atypique dans la lutte contre l'apartheid. Elle a été l'épouse pendant 38 ans de Nelson Mandela. Elle est née en 1936 dans la province du Cap. Après leur mariage en 1958, Nelson Mandela entre dans la clandestinité. Restée seule après son arrestation en 1962, elle subira toutes sortes d'intimidations. Elle s'entoure d'un groupe de jeunes hommes, sa garde rapprochée, le Mandela United Football Club. Elle sera reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement d'un jeune militant, Stompie Siaipé. En 2003, elle est condamnée une nouvelle fois pour fraude. Députée depuis 1994 et réélue à chaque élection, elle brille par son absence au Parlement. L'image du couple marchant main dans la main à la libération de Mandela en 1990 a fait le tour du monde, mais ils ont fini par divorcer en 1996. Nelson Mandela, avant sa mort en 2013, ne lui a rien légué. Furieuse, elle a engagé une bataille pour récupérer la maison familiale de Kounou et la justice l'a récemment déboutée de ses demandes. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, elle représente le rôle important que les femmes ont joué dans la lutte contre l'apartheid.
Nous y reviendrons donc sur la vie et l'œuvre de Winnie Mandela dans notre partie magazine. Au moins une vingtaine de morts dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram a multiplié les attaques pendant le week-end de Pâques à Maiduguri, qui abrite des centaines de milliers de déplacés dans l'état du Borno. Ekiabadou.
La nuit dernière, les habitants de Maiduguri ont été secoués par des séries d'explosions et de tirs qui ont duré au moins une heure. Il y a au moins une vingtaine de morts et plus de 80 blessés, et ce bilan peut s'alourdir. Vendredi, 4 adolescentes kamikazes ont attaqué le camp de déplacés de Zayouya, aux environs de Maiduguri, tuant 2 personnes. Dimanche soir, les combattants ont tenté une incursion dans la même ville, réussissant à traverser les murs et les fossés qui entourent la cité de près de 3 millions d'habitants. Dans les quartiers périphériques de Balechouya et Balekoura, des personnes ont perdu la vie alors qu'elles essayaient de fuir les échanges de tirs entre les insurgés et les militaires. Les combattants sont arrivés à piller pour attaquer la base militaire en utilisant des kamikazes, des armes à feu et des bombes. Cette série d'attaques est une manière pour Aboubakar Shekou de montrer sa démarcation une semaine après que le gouvernement d'Abuja ait annoncé la tenue de négociations avec une aile dissidente de Boko Haram.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, estime que la loi de finances 2018 était contestée par une minorité de Nigériens et qu'elle répondait aux aspirations du peuple. La loi 2018 est la traduction budgétaire du programme de renaissance qui prévoit d'assurer notamment la sécurité des routes, les chemins de fer, l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau, a-t-il expliqué lors d'un entretien diffusé sur la télévision nationale. Et nous y reviendrons donc dans la partie magazine. En Éthiopie, le nouveau premier ministre Abiy Ahmed a été investi aujourd'hui par le Parlement, devant lequel il a prononcé un discours au ton conciliant envers l'opposition et le voisin érythréen. Les précisions de John Lyndon.
Sans surprise, Abiy Ahmed, 42 ans, a été officiellement investi par le Parlement, entièrement contrôlé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Celui qui prend la tête de l'exécutif éthiopien a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir. Aux Éthiopiens qui vivent à l'étranger et aux Éthiopiens qui vivent ici, nous devons nous pardonner les uns les autres du fond du cœur, a-t-il déclaré dans son premier discours devant le Parlement, une main tendue à la fois à l'opposition et aux voisins érythréens. Pour rappel, Ali Mariam Dessalagne avait créé la surprise en démissionnant le 15 février, évoquant la nécessité de réformes face au mouvement de protestation débuté fin 2015, dont la répression a fait au moins 940 morts. Le pouvoir avait le lendemain de sa démission réinstauré l'état d'urgence. Plus de 1100 personnes ont été arrêtées, dont des membres de l'opposition, de la société civile et des journalistes. Certains seront libérés quelques mois plus tôt à la faveur d'une amnistie et d'autres ont été remis en prison. Le nouveau premier ministre n'a toutefois pas indiqué lundi s'il comptait lever l'état d'urgence, une mesure qui, pour beaucoup, traduirait dans les faits ses déclarations d'apaisement.
Au Burundi, deux membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir ont été tués et 14 autres blessés par l'explosion d'une grenade dans un bar de la commune de Gitega, dans le centre du pays. Elle est d'origine criminelle, selon un tweet de la police. Deux suspects ont été arrêtés. 5 militants islamistes somaliens Shebab ont été tués lors d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine. C'est ce qu'a annoncé le commandement africain-américain en Afrique, Africom. Cette frappe a été menée dans le centre de la Somalie, à environ 400 km au nord-est de Mogadiscio. Un véhicule a été détruit et aucun civil n'a été tué, selon l'armée américaine. Le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé le lancement d'une opération militaire pour traquer les djihadistes du groupe État islamique encore actifs dans l'ouest du pays. L'opération de ratissage vise tous les foyers du terrorisme autour des villes de Misrata, Bani Walid et d'autres grandes villes sous le commandement de la force de lutte antiterrorisme, a précisé le porte-parole du GNA. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été réélu pour un second mandat avec 97% des voix selon l'autorité nationale des élections. Le taux de participation a été de 41,5%. Près de 25 millions d'Égyptiens ont exprimé leur vote. Plus de 92% des bulletins ont été validés. Le reste a été rejeté comme non conforme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine impose des taxes sur 128 produits américains sur des importations majeures chinoises. Pékin réplique ainsi aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium annoncées le mois dernier par le président Trump. Eric Manirakiza.
Les nouvelles taxes chinoises portent sur des produits divers allant des fruits à la viande de porc. La liste de tarifs sera rendue publique prochainement, mais Pékin va épargner des produits agricoles majeurs, notamment le soja et des compagnies industrielles importantes, en l'occurrence le géant Boeing. Ces mesures de rétorsion font craindre une escalade vers une guerre commerciale entre les deux géants économiques de la planète. L'administration Trump a imposé des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium au nom de la sécurité nationale. Le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, a fait valoir jeudi que les sanctions américaines étaient avant tout un prélude à une série de négociations. Le ministère chinois du Commerce, de son côté, qualifie d'abus la décision de Washington et contraire au principe de non-discrimination du fondement du système commercial multilatéral. Le quotidien officiel Global Times estime que Washington va payer le prix de sa politique commerciale radicale envers la Chine.
L'Italie a nié être concernée par l'accord conclu entre l'ONU et Israël sur la réinstallation de migrants africains dans des pays occidentaux, contrairement aux déclarations des autorités israéliennes. Il n'existe aucun accord avec l'Italie dans le cadre de l'accord conclu entre Israël et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés pour la réinstallation de ces migrants, indique le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les autorités israéliennes ont de leur côté annoncé plutôt être parvenues à un accord avec l'ONU pour permettre le départ d'au moins 16 000 migrants africains vers des pays occidentaux, dont l'Italie. Un Palestinien a succombé à ses blessures après avoir reçu une balle tirée vendredi par un soldat israélien près de la frontière, ce qui porte à 17 le nombre de Palestiniens tués lors des manifestations, selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza. Fariz al-Rakib, 29 ans, avait été blessé à l'estomac dans le sud de la bande de Gaza durant une marche qui avait réuni des dizaines de milliers de manifestants palestiniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco avec Eric Manelakiza.
L'Afrique du Sud contribue énormément à la vigueur du flux commercial intra-africain. En 2016, Pretoria a atteint 23% du volume total. Le reste du continent lui fournit près de 40% de ses recettes d'exportation agricole et plus de la moitié de ses besoins en carburant et en énergie. En 2015, le Nigeria a satisfait 53% de sa consommation en gaz et pétrole. En Afrique subsaharienne, la corruption foncière affecte plus les femmes. Elles sont fortement dépendantes à la terre, qui constitue une source de revenus. D'après Transparency International, cette situation s'observe au Cameroun, au Ghana, au Kenya, au Libéria, à Madagascar, en Sierra Leone, en Ouganda et au Zimbabwe. Les femmes sont souvent exclues des négociations sur les terres et des discussions communautaires avec des investisseurs pour des ventes de terrains potentiels. De plus, elles ne reçoivent pas leur juste part de la compensation pour les terres acquises par des parties externes. Les légumineuses constituent le potentiel pour une agriculture durable en Afrique subsaharienne.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Veille d'armement, Ligue des champions avant les premiers quarts de finale.
Et oui, l'affiche entre la Juventus Turin et le Real Madrid lance en majesté les quarts de finale aller de la Ligue des champions, ce sera demain. Lors de ces quarts de finale, le Bayern Munich devra se méfier de Séville en Andalousie. Juve-Real, c'est la finale de la saison dernière lorsque le club espagnol s'était imposé 4-1. Mais l'équipe de Massimiliano Allegri est la dernière à avoir éliminé le Real lors des demi-finales 2015. Cette rencontre de gala, c'est aussi le retour de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane à Turin où il a joué. Et ce match mettra également reprise un club italien deux fois finaliste en trois ans face au double tenant du titre espagnol. Autre rencontre mardi dans l'ombre de cette affiche, Séville-Bayern Munich. A priori un match déséquilibré. Les Munichois, à l'effectif plein d'étoiles, en sont à leur 7e quart de finale d'affilée. Quant aux Andalous, sans grande star, ils disputent leur premier quart de finale de la Ligue des Champions depuis, tenez-vous bien, 1958.
Premier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans.
Notons la bonne performance du Burundi qui est allé battre l'Éthiopie sur la marque de 2-0. Le Gabon a pris le large à domicile 4-0 devant le Togo. Et puis la Guinée-Bissau s'impose 1-0 à domicile face à la Sierra Leone. Le match nul un but partout entre le Kenya et le Rwanda. Les Lionceaux de l'Atlas se sont mis en danger puisque les Marocains se sont inclinés 2-0 face à la Mauritanie. Par contre, à domicile, l'Algérie a tenu son rang, dominant la Tunisie 3-1. Large victoire 5-1 de l'Ouganda face au Soudan du Sud. Pour le reste, match nul 0-0 entre la Tanzanie et la RDC à Dar es Salaam. Même score entre les Seychelles et le Mozambique, tout comme le Botswana face à la Namibie. 0-0 également entre le Malawi et le Swaziland. À noter que le Bénin est qualifié suite au forfait du Liberia. Les écureuils juniors qui affronteront au second tour la Gambie.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston est tombé de son nuage à deux semaines du coup d'envoi des playoffs après sa nette défaite 100-83 sur le parquet de San Antonio qui de son côté a fait un grand pas vers la qualification. À l'ouest toujours, Kevin Durant a relancé Golden State qui restait sur trois défaites consécutives à domicile avec 29 points et 11 rebonds contre Phoenix, une victoire 117-107. Oklahoma City a quasiment son billet pour les playoffs en poche après s'être imposé à la Nouvelle-Orléans 109-104. Denver, vainqueur après prolongation de Milwaukee 128-125. Utah a décroché une victoire capitale 121-97 face à un adversaire direct Minnesota. En revanche, les Clippers de Los Angeles ont sans doute dit adieu aux playoffs après leur défaite à domicile face à Indiana 104-111. Enfin, à l'Est, tout va bien pour Cleveland qui est venu à bout de Dallas 98-97.
Merci Nicolas.
Bye-bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Winnie Madikizela Mandela est décédée aujourd'hui à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Johannesburg. Elle était la seconde épouse de Nelson Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud. Femme très engagée, elle militait au sein de l'ANC aux côtés de son mari et sans relâche durant les 27 années de prison de celui-ci. Pour revenir sur l'héritage de Winnie Mandela, Jacques Aristide s'est entretenu avec Kofi Kwaku, maître de conférence à Wits University de Johannesburg.
Ben évidemment, c'est une figure illustre qui a vraiment combattu contre l'apartheid. Elle a subi des pressions, des traumatismes, des dépressions et de l'oppression et tout ça. Donc c'est un symbole vraiment très important pour pas seulement l'ANC, mais la libération de l'Afrique du Sud et surtout en Afrique australe, où cette libération, ce que les gens appellent en anglais le struggle, c'est-à-dire la lutte pour l'émancipation, s'est passée. Elle reste une figure très importante et c'est vraiment dommage qu'elle meure. Mais bon, comme tout le monde, il faut quand même passer le temps et les gens sont obligés de mourir. Mais elle reste un symbole très important.
Mais elle était controversée. 1986, elle appelle à libérer le pays avec des allumettes. 1992, elle est accusée de corruption et mauvaise gestion. Elle est démise de ses fonctions à l'ANC. Ces polémiques ont-elles terni son image de militante aux côtés de Nelson Mandela?
Non, pas du tout. Pour ses supporters, elle reste toujours un symbole très important. Par exemple, vous avez ici Julius Malema, un jeune, le jeune cacique comment ça s'appelle, ce qu'on appelle EFF, des groupes d'un nouveau parti, qui est très jeune, qui est aussi très fort dans les questions d'économie, de liberté économique, qui est, en fait, elle restera toujours le symbole et la parraine de Julius Malema. Donc elle a toujours beaucoup de gens qui la supportent. C'est vrai que son image a été un peu ternie, mais elle reste toujours très, très, très supportée en Afrique du Sud.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique du Sud et pour peut-être de jeunes militants, etc.? Donc, qu'est-ce que cela représente?
Ben, écoutez, pour nous, pour les gens aussi, les jeunes militants en Afrique, nous, les observateurs et même tous les autres, c'est vraiment une page, une ancienne page qui est tournée. Et en fait, il y a eu beaucoup de débats, il y a toujours beaucoup de débats en ce moment en Afrique du Sud sur les questions de génération, c'est-à-dire que les anciens, ceux qui ont lutté pour la paix et la libération en Afrique du Sud, doivent maintenant laisser la place aux jeunes loups qui doivent, eux, décider du futur de l'Afrique du Sud. Donc, sa mort permettra quand même de tourner la page, mais aussi de regarder un peu vers le futur, parce que l'Afrique du Sud a vraiment besoin de nouveaux leaders, d'une nouvelle jeunesse et d'une nouvelle idéologie qui lui permettra de vraiment tourner la page et de faire beaucoup plus de regarder vers le futur plus que de regarder surtout vers le passé.
C'était Kofi Kwaku, maître de conférence à Wits University à Johannesburg.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel, ce mardi, juste après les nouvelles. L'invitée de LMF est Christiane Minoki Ekambo, journaliste congolaise, fondatrice du journal en ligne Le Journal des Nations. Membre de l'Union internationale de la presse francophone, notre consoeur travaille dans la presse écrite en RDC depuis 25 ans. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi. À plus tard.
Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a estimé que la loi de finances 2018 était contestée par une minorité seulement de Nigériens et qu'elle répond aux aspirations du peuple, des déclarations qui ne plaisent pas du tout à la société civile qui a appelé à une journée pays mort ce lundi. Une nouvelle manifestation contre la loi de finances est prévue le 8 avril prochain. John Lyndon a joint Tierno Hassan Bouama, directeur des programmes de l'organisation alternative Espace Citoyen à Niamey.
C'est une action qui a été projetée par le pacte de concertation des organisations de la société civile qui est engagé depuis plusieurs mois dans un vaste mouvement visant a demandé l'annulation des mesures antisociales contenues dans la loi de finances 2018. Il y a eu déjà par le passé plusieurs mobilisations dans tous les pays. Donc aujourd'hui, nous avons observé l'évaluation de l'opération Pays Mort qui a été enclenchée. Et selon l'évaluation à chaud que nous venons de faire, dans au moins 4 régions du pays, à savoir la région de Tillabéri, Niamey, Dosso et Zember, où le mot d'ordre a été lancé par nos représentants là-bas. L'évaluation que nous faisons est satisfaisante.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement?
Nous attendons du gouvernement qu'il révise le contenu de cette loi dans la mesure où nous avons, à l'époque, au moment où il était en examen devant l'Assemblée nationale, été reçu par la commission saisie au fond sur cette question, la commission des affaires sociales, et nous avons fait des propositions, des recommandations pour retirer les mesures que nous jugeons les plus antisociales. Parce que l'idée du gouvernement ici, c'est de prendre encore plus d'argent dans les poches des citoyens qui sont déjà précarisés. Et nous demandons également au gouvernement de réduire son train de vie. Vous savez que nous avons l'un des gouvernements les plus pléthoriques de la sous-région. Et donc, il y a un certain train de vie de l'État que nous avons des institutions également qui sont très budgétées. Tu vois, tout ça, les Nigériens ne comprennent pas comment un pays qui est tracé depuis plusieurs années, dernier en termes d'indice du développement humain du plus, peut se doter d'un gouvernement avec une telle taille, peut avoir des institutions aussi budgétivores. Je pense, quand je le dis au Conseil économique et social, à la médiature, dont les Nigériens ne voient pas l'impact du travail.
En quelques mots, est-ce que d'autres actions sont prévues dans le futur?
Le 8 avril, il est prévu une marche dans tous les pays pour continuer la mobilisation continue, non seulement pour demander la libération de nos camarades, les 22 qui ont été arrêtés et incarcérés dans différentes régions du pays, mais aussi pour amener le gouvernement à se plier aux demandes de ses citoyens.
C'était Tierno Hassan Bohama, directeur des programmes de l'organisation Alternative Espace Citoyen à Niamey.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En République démocratique du Congo, la situation d'insécurité dans le territoire de Djougou affecte l'économie de la province de l'Ituri. Au marché de Bounia, les prix de certaines denrées alimentaires ont doublé, voire triplé. L'insécurité et le déplacement de la population risquent de créer une situation de famine, selon la société civile en Ituri. Reportage de Charlie Kassereka, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Bounia.
Les légumes, fruits, les poissons et autres produits des champs deviennent de plus en plus rares sur les marchés et leurs prix ont doublé, comme par exemple les poissons et les maniocs, nourriture de base pour les Ituriens. Au grand marché, les vendeuses des poissons d'Ilark Albert, situé à une trentaine de kilomètres de Bounia, déplorent les tracasseries, pillages et kidnapping sur la route depuis un certain temps. L'une d'elles raconte son histoire à VOA Afrique.
Sur la route, il y a maintenant beaucoup de problèmes. Pillage, tuerie. Avant, c'était facile d'écouler 150 à 180 kg. Aujourd'hui, difficile de vendre même 100 kg. L'argent ne circule plus.
Pour les ménagères, difficile de remplir leur panier et satisfaire tous les enfants à la maison. Angèle, mère de 4 enfants, est venue acheter du poisson ici au marché.
Je suis venue acheter les poissons, les demi-kilos. Ça coûtait 3000 francs. Avant, ça coûtait 1500 francs. Beaucoup de gens de l'intérieur qui nourrissent Bounia sont déplacés suite à l'insécurité.
L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage redoute des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire si la situation perdure. Locadi Bonaventure.
On doit avoir perdu plus de même 50% de la production. Ce qui fait qu'avec un 5 dollars, une maman ne peut pas satisfaire son panier ménager. Et puis bon, ça crée des problèmes.
La société civile appelle à un rétablissement rapide de la sécurité dans la région de Djougou et va jusqu'à demander même la démission du gouverneur d'Ituri. Jean Bosco Lalo est le coordonnateur des activités de la société civile ici en Ituri.
que le gouverneur actuel soit relevé de ses fonctions. Parce que finalement, on s'est retrouvé devant une personne qui n'est pas à mesure de faire avancer la province, qui n'est pas à mesure de sécuriser sa population. Et nous avons demandé dans nos documents de plaidoyer que d'ailleurs Djougou et même l'Ituri soient déclarés comme une zone sinistrée au vu des drames qu'on a connus.
L'armée congolaise dit mener actuellement des opérations de ratissage sur les terrains pour favoriser les retours des déplacés. Avec une population estimée à plus de 600 000 habitants, la ville de Bounia, chef-lieu de la province d'Ituri, vit des moments difficiles avec un afflux de plus de 50 000 personnes venues de Djougou et qui vivent dans des cas de déplacés et d'autres dans des familles d'accueil. Charlie Kasereka, à Bounia, à Ituri, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Wojtek Zorniak, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La République démocratique du Congo, la RDC, connaît l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Environ 4,5 millions de personnes ont été déplacées par les violences et 13,1 millions ont besoin d'assistance humanitaire. Les États-Unis perçoivent la crise humanitaire en RDC comme une urgente priorité pour plusieurs raisons, a dit l'administrateur de l'USAID, Mark Green. Premièrement, les États-Unis ont fourni des millions de dollars à la RDC pour alléger les souffrances et renforcer le développement économique. Mais ces fonds sont dépouillés de leur valeur réelle par les crises, les conflits et la mauvaise gouvernance, a encore dit l'administrateur de l'USAID, Mark Green. Un désastre d'origine humaine, sous la forme d'une gouvernance inhumaine et autoritaire, est en train de détruire toute chance d'atteindre ses objectifs. Deuxièmement, il s'agit d'une crise internationale. Des politiques brutales, une corruption rampante, la mauvaise gouvernance et des conflits ont fait des millions de déplacés. Des centaines de milliers de personnes ont fui vers les pays voisins, imposant des nouveaux fardeaux avec de nouveaux risques d'instabilité régionale. Troisièmement, l'envergure de cette crise est stupéfiante. Et alors qu'il est vrai que la situation en RDC est complexe, ce n'est pas une excuse pour ne pas agir. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses, mais nous savons ce qui ne marche pas. Le statu quo, a souligné Mark Green. C'est pourquoi nous suggérons les mesures suivantes. Premièrement, la RDC doit tenir les élections crédibles cette année. Deuxièmement, le gouvernement doit renforcer les conditions rendant possible la démocratie, y compris en informant clairement les citoyens qu'ils sont libres d'exprimer leur volonté et de choisir leur avenir. Troisièmement, le gouvernement doit garantir la sécurité des travailleurs humanitaires. L'année dernière, 158 incidents sécuritaires visant des agents humanitaires ont été enregistrés. Deux experts onusiens ont été enlevés et assassinés. Et finalement, étant donné qu'une crise internationale requiert une réponse internationale, nous appelons les autres pays à en faire plus pour aider. Cette demande commence par le gouvernement lui-même. Il a peu fait pour atténuer les souffrances, quand bien même nombre de ses dirigeants se remplissent les poches, a déclaré l'administrateur Green. La vraie compassion demande plus que de l'argent. Elle demande que nous utilisons notre influence collective pour exiger des actions concrètes qui mettront fin au cycle de misère. Nous appelons à prendre ces mesures car elles offriront au peuple de la RDC leur premier espoir d'un avenir radieux.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.